la suite de la journée Mangatan. Donc on va discuter un petit peu autour de la thématique du festival, le fil conducteur du festival durant cette 12e édition qui est l'histoire. Comment le manga s'est approprié cette thématique à travers la science-fiction. On a longuement parlé, notamment au moment du terrible tsunami du Tohoku et du séisme plutôt, que peut-être les mangaka avaient été visionnaires et avaient entrevu finalement ce qui allait se passer sur la terre japonaise. On va essayer de voir si est-ce qu'ils sont visionnaires, comment est-ce qu'ils se nourrissent des éléments de l'environnement japonais, tant historique qu'environnemental, et aussi qu'est-ce que ça implique au niveau scientifique. On se retrouvera ensuite à 4h30 pour le défilé de cosplay de la journée. Puis la remise des prix aura lieu à 18h dans la salle d'une, en même temps que, plus exactement juste avant, le lancement de la projection d'Oraka 7, film dont il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série télé pour le comprendre, qui vous sera proposé en clôture du festival. Alors, évidemment, aussi, j'en profite pour remercier tous nos partenaires, notamment la TAN, qui est un partenaire sur lequel on peut compter depuis maintenant 2007 dans le cadre de la soirée Mangatan d'abord, puis de la journée Mangatan ensuite. Et j'aurai l'occasion de renouveler ces remerciements un peu plus tard. Alors, donc, nous allons parler un petit peu de manga, science et science-fiction. Et j'ai le plaisir d'accueillir trois invités aujourd'hui qui vont ainsi animer la rencontre. Alors, d'abord, Tomáš Dukovič, qui est journaliste notamment pour le Journal du Japon, Total Manga et Zolo Mag, donc journaliste spécialisé. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Nous avons également un spécialiste des relations franco-japonaises, universitaire, qui termine actuellement sa thèse de doctorat sur l'influence des missions françaises au Japon dans les années 1850-1870, Masaya Nakatsu.
Bonjour.
Et enfin, Guillaume Le Bigot, qui est blogueur, président de l'association SOS Brigade Francophone, et qui est aussi aux manettes techniques quand il s'agit de lancer tous les fichiers, tous les éléments du cosplay.
Bonjour.
Alors, la thématique cette année rentrait bien, en fait, en résonance avec l'actualité, la terrible actualité au niveau du Japon. Et il nous a semblé utile, étant donné ce qu'on a pu entendre dans les médias, c'est-à-dire que rapidement, en fait, certains mangas ont été mis sur le devant de la scène, notamment Tokyo Magnitude 8.0, certains en ont peut-être entendu parler, au grand journal. Il y a un certain nombre de médias ainsi qui sont intéressés aux mangas parce que les images qui étaient dans les mangas en question étaient étrangement similaires aux images de désolation dans le pays. Donc on va un petit peu revenir là-dessus et explorer cette thématique. Est-ce que, par exemple, Masaya, tu pourrais nous expliquer un petit peu les origines du manga et les origines de la science-fiction dans le manga ?
Alors, moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste du manga comme les autres, donc je vais parler un petit peu de l'histoire du Japon. Et puis, en fait, c'est pendant l'époque d'Edo qui a débuté le 1600 et qui se termine en 1867. En fait, à cette époque-là, le Japon était fermé au commerce étranger. Et puis, à l'intérieur du pays, les Japonais ont développé la technique de ukiyo-e, estampe japonaise. Et puis, je crois qu'à ce moment-là, c'est bien l'origine du manga pendant cette époque-là. Et si on parle de la science-fiction ou alors de la science, je crois que dans l'esprit des Japonais, c'est une série de guerres qu'ils ont vécues à partir de à la fin du 19e, c'est-à-dire que la guerre sino-japonaise de 1894 et ensuite la guerre contre la Russie 10 ans plus tard et les deux guerres mondiales. Je crois que cette expérience-là vécue par les Japonais qui ont bien influencé sur le thème, par exemple, de la science-fiction. Par exemple, Tezuka Osamu, etc.
Oui, tu parles de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que Osamu Tezuka, qu'on considère comme le créateur du manga moderne, donc avec Tetsuo Astro Boy, à mon sens, c'est vraiment le fondateur du manga de science-fiction, puisque grâce à l'aventure scientifique que représente ce petit bonhomme, donc de l'astro, le petit robot, on va ouvrir la science au public. Donc, c'est un robot qui fonctionne à l'énergie nucléaire, donc l'énergie qui a détruit le Japon un temps. Et donc on va le retourner pour utiliser cette énergie destructrice pour faire quelque chose de pacificateur et donc de constructif par la suite. Donc pour moi la science-fiction dans le manga en tout cas apparaît à ce moment-là.
Faut savoir que le Japon a été énormément marqué par la bombe d'Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, le problème, c'est que ils ont voulu, je pense, redorer un peu le blason du nucléaire avec Astro, quoi. Enfin, essayer de donner une image beaucoup plus positive du nucléaire, puisque c'était pas forcément bien vu du côté japonais à l'époque, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est pas seulement un manga que le nucléaire. Alors, la technologie nucléaire a marqué l'esprit des Japonais. Par exemple, le Godzilla, c'est une créature qui est née suite d'un essai nucléaire, je crois. Et puis sinon, je ne sais pas si c'est diffusé en France, Ultraman. Ce sont des héros qui ont grandi à cause du nucléaire. Donc c'est pas seulement un manga que le nucléaire hein, qui marque l'esprit japonais. Hein.
Et justement tout à l'heure tu évoquais Guillaume Osamu Tezuka et Astro Boy. Je pense qu'il y a des représentations quand même d'explosions assez importantes dans la science-fiction japonaise qui tendraient à dire il n'y a pas seulement quelque chose qui remettrait, qui défendrait le nucléaire, mais il y a aussi une crainte qui est exprimé par un certain nombre d'éléments.
Ben, c'est plus comme un fantôme un peu de la bombe nucléaire qu'on voit souvent dans les histoires de manga traitant de guerre ou de catastrophes naturelles. Enfin, pas naturelles, puisque là, c'est provoqué par l'homme, mais je veux dire par des catastrophes qui nuiraient grandement à l'équilibre du pays.
Parce que là, par exemple, je montre une image d'Akira, où Akira commence par une énorme explosion. Il y a d'autres... c'est amusant, hein. Ça, c'est une image tirée de Dragon Ball Z. On peut aller loin comme ça. Evangelion, là aussi, catastrophe.
Les explosions sont généralement très très grandes dans les mangas et animés japonais, bizarrement.
Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la question de la bombe destructrice en tant que telle, elle apparaît assez tardivement dans l'histoire du manga contemporain. Donc, Gen Hiroshima, je crois que c'est vraiment le premier manga à avoir abordé les catastrophes de la bombe nucléaire, et ça a été créé en 1972, donc près de 30 ans après les explosions. Il y a vraiment eu une génération qui n'a pas parlé de la guerre destructrice, de la destruction qu'a provoqué le nucléaire. Et donc, après, dans les œuvres postérieures, donc type Akira, Evangelion, puis même après, ça a été détourné de manière rigolote. Par exemple, une explosion, un champignon atomique en forme de lapin dans Oran High School, il me semble. La bombe est moins taboue, mais il y a quand même eu ce flottement d'une trentaine d'années où il n'a pas été question de guerre, où cette blessure est vraiment restée enfouie dans la fiction, je crois.
Oui, si on parle de Gen de Hiroshima, Hatashi no Gen en japonais, je me souviens très bien que quand j'étais en troisième année d'école primaire, hein, je crois que ça correspond à la CP, CE1, en fait, à ce moment-là, les professeurs nous ont montré le film de Gen de Hiroshima, mais en fait, comme ce sont des élèves de troisième année d'école primaire, on n'a pas bien compris le mot guerre, mais l'image de bombes atomiques nous a bien marqué. On avait vraiment peur de voir cette image de Gen de Hiroshima. Donc c'est quelque chose, même si les gamins qui ne comprennent pas le mot guerre, si on dit la guerre, c'est tout de suite, ça fait penser tout de suite la bombe nucléaire pour les Japonais.
Et les 30 ans qu'évoquait Thomas entre le moment finalement 1945 et le moment où il commence à y avoir des représentations graphiques et représentations dans des dessins, C'est lié à un traumatisme, c'est lié à un tabou à cette époque-là par rapport à la bombe nucléaire. Comment c'est perçu par le peuple japonais ?
Alors, je crois qu'à mon sens, c'était un tabou, un petit peu, parce qu'en fait, on était le seul victime d'armes nucléaires. Et puis, je crois qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a pas mal de professeurs qui pensent que on avait tort de commencer la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, actuellement, si on parle du nucléaire, évidemment, la catastrophe de mars dernière qui nous a traumatisés encore une fois, les Japonais.
Est-ce qu'on peut imaginer, du coup, est-ce qu'il y a déjà des mangas qui sont appropriés cette thématique-là, qui sont revenus sur ce sujet-là ? Est-ce que tu...
Personnellement, je connais...
Sur le sujet de Fukushima en tant que tel ? Enfin, je crois pas. Enfin, je n'en ai pas entendu parler.
Non, après... ça ne me dit rien non plus.
Si on poursuit justement sur ces représentations, donc tout à l'heure on parlait d'Astro, on parlait, il y a un élément qui est aussi fondamental dans la science-fiction japonaise, c'est tout ce qui est robotique. Astro en est bien une incarnation, mais avec des traitements parfois très distincts. Comment vous le percevez par rapport à cette thématique ? Est-ce que finalement la robotique japonaise, dont on dit souvent qu'elle est en avance par rapport à d'autres modes de robotique. Par exemple, la robotique française ne s'est pas développée de la même manière. Elle est beaucoup moins robotique humanoïde. Il y a tout un pan de recherche très avancé en robotique française, mais moins sur la partie humanoïde. Est-ce que c'est lié à ce qu'il y ait eu ces représentations graphiques ?
Je crois que quand on pose la question à des ingénieurs robotiques japonais, d'où leur est venue cette vocation ? Pas mal aujourd'hui répondront que ça vient d'Astro Boy, effectivement. Cette représentation du petit bonhomme qui mécanique, qui a une âme et qui fonctionne. Donc, en un sens, ça a vraiment eu un impact, vu qu'aujourd'hui, on a des robots qui jouent de la trompette ou qui montent des escaliers. C'est formidable. On ne sait pas encore trop à quoi ça sert, mais en tout cas, ils existent et ils ont été créés par des Japonais.
C'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas mal d'amis qui travaillent comme professeurs de robotique et qui ont choisi leur métier parce que quand il était petit, il regardait le Gundam, etc. etc. Donc, je crois qu'on peut dire que ça a influencé un peu dans le domaine robotique.
De toute façon, que ce soit dans le domaine de la robotique ou même d'autres domaines, il y a souvent eu de grands artistes ou de grands chercheurs qui ont admis que ce qui avait lancé leur vocation, c'était bien souvent des œuvres, pas forcément des mangas, mais parfois des films occidentaux ou des bandes dessinées ou des séries, quoi.
Là, par exemple, je trouvais ça assez intéressant, justement, Gundam, qui est une saga culte de robots géants au Japon. Il y a eu ce robot, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, qui a été monté. Est-ce que, finalement, l'objectif du peuple japonais, c'est de construire ce type de robot pour l'aider dans la vie de tous les jours ?
Tu parles du Gundam qui était à Odaiba, hein ? Oui. C'était en 2009. Enfin, qu'il a commencé à être construit.
Oh oui, c'est vrai que moi aussi, je suis allé voir le Gundam à Odaiba, mais c'est pas forcément les Japonais veulent vraiment construire ce genre de robot, mais ça, comment dire, ça fait penser quand même le Japon, c'est un pays qui a inventé le Gundam. Donc ça veut dire que c'est un pays qui est assez en avance par rapport aux autres pays qui même en manga.
C'est peut-être aussi une façon de prendre revanche sur la défaite qu'a pu être 45, à savoir l'humiliation qu'a subi le Japon en perdant la guerre finalement. Donc de reconquérir le monde par sa technologie et donc par ces technologies de pointe et notamment les robots. Et ça passait évidemment aussi par la fiction, donc le manga et la japanimation.
Donc ce Gundam, au grand dam des amateurs, n'était pas encore purement fonctionnel. Il faisait de la lumière, comme on peut le voir sur l'image.
Il y a même des gens qui se sont mariés sous le Gundam.
C'est effectivement poussé la passion assez loin. Du coup, cette robotique qu'on voit fortement présente, c'est un élément. Peut-être qu'on peut aussi revenir sur un élément dont qu'on n'a pas évoqué, c'est ce rapport à la nature, parce que je pense que c'est un élément assez important. Comment un Japonais voit son environnement? Est-ce qu'il se dit qu'à tout moment, une catastrophe peut survenir et il doit être prêt à réagir?
Oui, c'est vrai que, par exemple, la religion japonaise, le shintoïsme, où on pense que, par exemple, dans le monde, il y a 8000 dieux qui existent dans le monde. Et puis, ça donne l'influence sur nos vies quotidiennes. Donc, si on parle de science-fiction, c'est un peu paradoxal dans l'esprit japonais, parce que le respect de la nature, respect pour la nature, et c'est un peu plus qu'aime la science ou la science-fiction. Donc, je trouve que c'est un peu paradoxal comme esprit.
Au-delà de ça, l'image de la catastrophe, elle a toujours existé bien avant le manga, même. Une des estampes les plus connues, donc une estampe japonaise les plus connues du monde, c'est la fameuse tempête au large de Kanagawa ou Kanazawa, je ne sais plus, de Hokusai, donc la vague, qui représente clairement une vague, peut-être pas un tsunami, mais une vague très violente au large d'une ville. Donc voilà, tout à fait. Les Japonais ont toujours vécu dans cette crainte. Le pays est construit, enfin, pas construit, se trouve sur un chevauchement de quatre plaques tectoniques, je crois. Donc les tremblements de terre, il y en a toujours eu, et il y en a malheureusement très certainement encore.
Oui, c'est vrai que pour les Japonais, je pense que, à mon avis, pour le peuple japonais, la nature, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc si un tremblement de terre qui se produit, il y avait beaucoup de Japonais qui se disaient qu'on n'a pas de choix, parce que c'est la nature qui nous a fait mal, mais on peut rien faire contre la nature. Donc je crois que c'est un bien.
Mais ils y sont beaucoup plus préparés que nous, je pense, dû à leur situation géographique. De toute façon, quand on voit que les petits en maternelle ont tous des casques quand ils se baladent, justement en cas de tremblement de terre, et que tout le monde, toute la population est habituée, étant donné qu'il y a des micro-tremblements de terre, voire des tout petits tremblements de terre assez fréquemment. Je pense que, que ce soit des tremblements de terre ou des tsunamis ou que ce soit autre chose, les Japonais, c'est un peu ancré dans leur quotidien, je dirais, non?
Oui, c'est vrai que c'est un pays qui est frappé par pas mal de catastrophes naturelles, le typhon, le tremblement de terre aussi. Donc, c'est vrai qu'on dit qu'on a bien l'habitude de vivre ce genre d'expérience. Donc, c'est vrai qu'on est un peu mieux préparé que les Occidentaux, que les Français, je crois que qui n'ont pas encore vécu un tremblement de terre, heureusement.
Et si on revient au rapport avec le média, justement manga, il me semble que Ultraman, que tu citais tout à l'heure, lors du séisme, donnait des conseils aux petits via Twitter et via des petites bandes dessinées mises en ligne.
Voilà, exactement. Il y a un Ultraman qui a dit le mot « n'ayez pas peur, les enfants, parce que c'est la nature ».
Ce qui fait que les héros de fiction deviennent vraiment des repères, des modèles qui sont directement connectés avec la réalité.
Voilà, exactement. Et puis, juste après la catastrophe de 11 mars, sur Internet, j'ai pas mal d'internautes japonais qui se disaient que pourquoi on n'a pas de... Comment il s'appelait la machine à décontaminer de Yamato? C'est Cosmo Cleaner. Donc il y a beaucoup de Japonais qui pensaient que maintenant il faut un Cosmo Cleaner pour décontaminer la radioactivité. Hein.
Mais cette idée du héros de manga ou de bande dessinée, ça a existé aussi en Occident, que ce soit en Europe, enfin en France, ou aux États-Unis avec les comics. C'est quelque chose qui a existé depuis longtemps, mais qui est beaucoup moins vrai maintenant. Enfin, c'est plus tellement un outil pour communiquer, je trouve.
Du coup, là, on a vu un petit peu le rapport du Japon, du manga, de tout ce qui est, on va dire, fiction par rapport à la nature, par rapport à la science. Et si on raccorde par rapport à la thématique historique, comment est-ce que cette science-fiction qui se nourrit finalement de tous les éléments qu'ont vécu le peuple japonais, comment est-ce qu'elle guide quelque part est-ce qu'elle aide à concevoir l'histoire différemment, à concevoir le sens?
Il y a toujours ce vieux fantasme donc de la défaite et donc de la réécriture de la guerre dans Zipang, par exemple. Ce navire, c'est l'histoire d'un navire japonais, militaire japonais de nos jours, qui se retrouve transporté par le biais d'une faille temporelle qu'on n'explique pas vraiment, en pleine bataille du Pacifique, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Et donc les héros vont avoir certains choix, la possibilité de faire certains choix, donc soit réécrire l'histoire, faire en sorte que le Japon gagne, soit laisser filer les choses, donc laisser couler la flotte, parce que donc après 45, le Japon s'est reconstruit plus brillant que jamais. Donc il y a toujours ce positionnement, c'est pas vraiment une schizophrénie, mais cette ambivalence dans la possibilité de refaire l'histoire du Japon.
Oui, je crois que ce manga Zipang, ça a été créé plutôt dans une histoire, dans une situation un peu plus récente que la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que, même actuellement, au Japon, il y a pas mal de bases militaires américaines qui protègent, entre guillemets, le territoire japonais. Et puis, la menace du Corée du Nord existe toujours. Donc, je crois que c'est dans ce contexte-là que ce manga a été créé. Hein.
Il y a eu une petite discussion autour de ce manga-là et de cet auteur-là qui est parfois perçu comme, en fait, la crainte vue de l'extérieur, c'est le côté nationaliste. Ça serait un retour à une vision d'un Japon impérial, nationaliste.
Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, il y a pas mal de Japonais qui pensent que si on parle de la guerre, on va commencer une guerre, vraiment. Donc, moi personnellement, de discuter sur la guerre et commencer la guerre ou utiliser la force militaire c'est pas vraiment la même chose, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gauchistes japonais qui pensent que c'est pas bien de parler de la guerre parce que sinon en parlant de ça on va avoir encore une fois une force militaire qui peut attaquer les mondes.
Par ailleurs, par extension, l'histoire, donc, ce que soulignait par exemple Gen d'Hiroshima donc, dans sa critique de l'occupation américaine, donc Gen d'Hiroshima qui n'est pas vraiment à proprement parler de la science-fiction, se retrouve après dans des œuvres de fiction comme une critique de l'occupation américaine. Par exemple, dans Ikigami ou Battle Royale, il y a toujours ce spectre américain qui survole l'histoire et qui impose vraiment des directives un petit peu comme qui transforme le Japon en vraie dystopie. Vraiment sous le joug des États-Unis finalement.
Il y a un peu quelque chose de similaire dans Code Geass aussi, avec l'Angleterre cette fois qui, on va dire, conquit le Japon complètement. Voilà.
Oui, qui est une réinterprétation un petit peu avec cette réflexion sur le terrorisme aussi. Est-ce que le terrorisme peut permettre à un peuple de se libérer de l'occupation qu'il perçoit? Avec un parallèle assez évident avec la situation du Japon au lendemain de 1945. Donc on a abordé l'histoire avec un grand H, et puis aussi en préparant cette table ronde, on parlait de l'histoire un peu plus intime, l'histoire individuelle. Il y a un certain nombre d'œuvres qui balayent ce thème. La première œuvre qui me vient en tête, parce qu'elle passait sous forme de pièce de théâtre au lieu unique en début de semaine, c'est Quartier lointain. Est-ce que c'est un élément qui est cher aux Japonais, ça, de pouvoir se réapproprier son histoire, parce que il y a une notion de préscience. Qu'est-ce que c'est finalement le message derrière ce type d'histoire?
Je crois que c'est une réponse à difficile à répondre. Comment on dit ça? Moi, j'ai aucune idée.
Parce que si on balaye, en fait, quand on, au moment de, avec tout ça, on a Quartier lointain. Il y a un autre film qui avait été projeté ici il y a quelques années, c'est La traversée du temps. La traversée du temps, l'héroïne peut faire des bonds dans le passé. Et qu'est-ce que c'est merveilleux faire des bonds dans le passé parce qu'on connaît le sujet d'examen qu'on va avoir demain. Donc, on va pouvoir être en mesure de répondre à toutes les questions. Qu'est-ce qui, à votre avis?
Je ne sais pas si c'est vraiment propre aux Japonais. J'adorerais pouvoir revenir dans le passé pour changer des trucs qui n'ont pas été dans ma vie. Donc, par contre, oui, c'est vrai que c'est présent dans quelques œuvres de fiction.
Mais peut-être que justement, tu dis, c'est pas propre au japonais. Le fait que l'adaptation de Quartier lointain en manga soit une adaptation franco-allemande, ça montre effectivement qu'il y a une universalité du thème, non ?
Il y a peut-être, je dirais, une envie pour le japonais. Enfin, c'est peut-être un désir ou un fantasme de se réapproprier en fait la vie, sa vie. Et de vivre une autre vie que celle qu'il vit actuellement, comme s'il n'en était pas satisfait pleinement, quoi.
C'est vrai que si on parle de ce genre de sujet, ça me fait penser toujours à Doraemon. C'est un manga qui, je crois que il n'est pas traduit en français.
Il est traduit en français, mais peu connu. Alors si tu peux replacer un petit peu.
En fait, dans cette histoire, il y a un robot en forme de chat qui vient du futur. Donc ça veut dire que je crois qu'il est venu du 22e siècle ou 23e siècle. Et puis, il aide un garçon qui n'est pas très, très fort, un garçon qui n'est pas bon à l'école. Et puis, dans ce manga-là, il y a un instrument qui s'appelle le Time Machine. Donc c'est une machine à voyager de temps. Et puis... dans cette histoire, cet instrument joue un rôle très très important. Donc si on parle de, par exemple, le voyage du temps pour les enfants japonais, ils pensent tout de suite à ça.
Et donc on voit bien en fait toute la dimension que sur la ligne temporelle, combien c'est lié en fait à la science-fiction et à toutes ces données que le peuple japonais a amassées. En fait, il y a des traumatismes, mais pas uniquement. Il y a aussi une manière, une philosophie de vie par rapport à la nature. Est-ce que la science-fiction japonaise, elle est optimiste ou pessimiste par rapport à l'évolution de l'histoire, de la ligne du temps ?
Moi, personnellement, je trouve qu'ils sont un peu pessimistes à ce moment-là.
Ça dépend. Oui.
Ouais, je suis assez d'accord. Ça dépend, en fait. Il y a des tas d'œuvres qui montrent des avenirs radieux, qui mêlent à la fois la science-fiction et la nature, un peu comme Aria, par exemple. Tandis que c'est vrai qu'on a aussi quelques œuvres bien pessimistes qui nous montrent des futurs gris, un peu parfois aseptisés. Je pense un peu à Metropolis, peut-être.
Qui est une adaptation de Fritz Lang quand même à la base aussi, c'est peut-être pour ça qu'il a repris cette thématique. Mais globalement, le post-apocalyptique, oui, un message pas toujours très très réjouissant. mais il n'y a pas que ça dans la SF japonaise, c'est ça. Et il faut aussi voir ça comme des cycles. Par exemple, Nausicaa, donc le seul manga dessiné par Miyazaki, l'univers de Nausicaa existe après une catastrophe dont on ne sait absolument rien. Donc il ne faut pas voir la destruction totale comme une conclusion en soi. C'est vraiment quelque chose de cyclique. Et dans Nausicaa, ils vivent en communion avec ces espèces de bestioles, les Oumu, là, et ça se passe très bien, a priori.
Et par exemple, un autre manga apocalyptique, Lequel le survivant, c'est une histoire qui se passe après une guerre nucléaire, et puis c'est assez pessimiste comme image. Donc.
On va peut-être prendre une ou deux questions dans le public, s'il y a des interrogations à l'un ou à tous nos invités. Le public est avide du concours de cosplay et se dit « Oh là là, ils n'ont pas bientôt fini ». Est-ce que vous auriez un manga ou un film d'animation ou une série de science-fiction à conseiller ?
Moi, personnellement, c'est Uchuu Senkan Yamato, Space Battleship Yamato. Parce qu'en fait, c'est un manga inspiré par un navire de guerre qui s'appelait Yamato. Et justement, là, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une fierté nationale pour les Japonais. Parce qu'en fait, c'était le navire le plus gros. Plus grand du monde, mais par contre ce navire-là était coulé assez rapidement. Il n'a même pas participé aux batailles, Donc, pourquoi pas Space Battleship Yamato, c'est...
Tu peux préciser qu'on ne t'a pas payé parce que pour dire ça, juste après la projection de Space Battleship Yamato en salle d'une.
Pour moi, ça serait Cowboy Bebop, plus par goût personnel, parce que c'est du space opéra, il y a du jazz, il y a du film noir, il y a du kung fu, il y a du western, des personnages vraiment géniaux, donc voilà, c'est vraiment la série de SF number one dans mon cœur, top et top.
Pourquoi ton t-shirt ne met pas à l'honneur Cowboy Bebop dans ce cas-là?
Donc, parce que j'en ai pas.
Montre ton t-shirt, hein. Shinji Lei Asuka Mali Evangelion.
Quant à moi, je vais peut-être un peu tricher parce que j'en ai vraiment deux que j'adore, enfin qui m'ont beaucoup marqué. Tout d'abord, Ghost in the Shell, qui est à la fois un film d'animation et deux séries animées particulièrement bien ficelées et qui montre vraiment de la SF cyberpunk avec une grande réflexion sur la société. Il y a énormément de détails en fait sur comment la société évolue. Avec l'apparition des cyborgs, des nanomachines, de l'intelligence artificielle, qui est donc une grande démonstration de ce que la science-fiction peut apporter. Et l'autre œuvre un peu plus humaine, en fait, que je vous recommande, c'est La Mélancolie de Aloy Suzumiya, qui apporte un certain vent frais. Un certain angle de vue plutôt singulier sur la science-fiction, les voyages dans le temps, les possesseurs de pouvoirs extrasensoriels et les extraterrestres.
Bon, merci à vous trois pour cette conférence. J'espère qu'on aura balayé des éléments. Je suis désolé, mais qu'on aura balayé suffisamment d'éléments par rapport aux attentes du public. Vous pourrez retrouver nos conférenciers après le concours de cosplay. Et puis, donc, on va maintenant faire une petite pause et on va reprendre ensuite pour ce fameux concours. Voilà, à tout de suite.
Merci à vous.